Aujourd'hui, à vue d'ailleurs, nous vous proposons un portrait du père Serge Saint-Arnaud. Il est secrétaire de la province d'Afrique australe des missionnaires d'Afrique, dont le bureau central est situé à Lusaka, capitale de la Zambie. Salut Robert.
Bonjour Denis.
Il y a quelques semaines, nos auditeurs s'en souviennent peut-être, nous avons consacré deux émissions sur l'Afrique et notamment sur la situation en République démocratique du Congo. L'un de nos invités était alors le père Serge Saint-Arnaud. Il est secrétaire de la province d'Afrique australe des missionnaires d'Afrique, dont le bureau central est situé à Lusaka, la capitale de la Zambie, qui est un pays qui est situé en fait à la frontière sud-ouest de la RDC, donc le Congo. Vous nous proposez donc aujourd'hui un portrait du père Saint-Arnaud. Parlez-nous de lui.
Bon, le père Saint-Arnaud est originaire de Sainte-Adèle, dans la région de la Mauricie, mais il a grandi à Latuc, plus précisément. Il a étudié à Trois-Rivières. C'est d'ailleurs par le journal de l'église de Trois-Rivières, dans lequel il écrit occasionnellement, que je l'ai découvert, plus particulièrement à travers un article intitulé « Le printemps chrétien ». Ça a vraiment attiré mon attention. Or, cet article, on y reviendra plus tard. J'ai aussi consulté son blog. Il est très actif sur son blog. Et d'ailleurs, c'est un exemple à suivre dont faisait part la semaine dernière François Gluttony. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'il avait d'abord amené à la prêtrise.
Très tôt dans ma vie, j'ai pris les paroles de Jésus très au sérieux. Et puis, ce matin, quand je lisais de nouveau un passage l'Écriture dans la lettre de Saint Jean. Alors, Saint Jean qui nous dit, par exemple, « Nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et il n'y a pas de crainte dans l'amour. » Alors, j'ai pensé que ça résumerait bien ce qui m'a conduit à devenir prêtre. Alors, fondamentalement, je crois en Dieu, mais surtout au Dieu de Jésus-Christ. Je crois que Jésus est celui qui nous parle le mieux de Dieu le Père. Et je crois aussi que cet amour est un esprit de liberté qui chasse toute peur, même celle de la mort. Alors essentiellement, je suis devenu prêtre pour suivre l'exemple du don de soi que Jésus nous a légué. Alors j'ai tout reçu librement en commençant par la vie. Alors, il ne tient qu'à moi de tout redonner en retour. Alors, pourquoi devenir missionnaire? Ben, ça, c'est la deuxième partie de ta question. Alors, sur ce point, ben, je me rappelle une autre parole, cette fois-ci, de Saint Paul qui dit « Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. » Et ça, j'ai vécu ça très profondément quand j'étais adolescent. Mais c'est au moment de mes études en théologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans les années, autour des années 76 jusqu'à 1980, que j'ai graduellement découvert ma vocation missionnaire en Afrique. Alors, premièrement, j'ai eu la chance d'avoir de nombreux amis africains. Certains d'entre eux étaient même des musulmans. La majorité d'entre eux venaient à l'époque de la Côte d'Ivoire. Et ces Africains m'ont éveillé à la fois à l'internationalité, mais aussi à l'interculturel et l'interreligieux. Alors, deuxièmement, à peu près à la même époque, j'ai fait la connaissance des missionnaires d'Afrique, connus autrefois sous le nom des Pères Blancs. Alors, qui répondaient exactement à ce que je cherchais à ce moment-là, c'est-à-dire un groupe d'hommes engagés, totalement engagés, pour l'Évangile et vivant en communauté internationale.
Robert, on vient d'entendre le père Saint-Arnaud nous expliquer son cheminement, ce qui l'a amené à la prêtrise, puis finalement, pour devenir missionnaire. Comment il s'est retrouvé en Afrique? Parce qu'il avait des amis africains, notamment en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on choisit le pays où on veut partir en mission? Est-ce que c'est un choix personnel, celui de sa communauté? Comment s'est-il retrouvé précisément en Zambie, qui est quand même dans le sud du continent africain, qui n'est pas une région très... qui connaît des troubles, en tout cas dans certains pays limitrophes, comme la RDC.
Je vais passer par un exemple que j'ai vécu l'année dernière en faisant une entrevue avec un Camerounais. Mm-hmm. Le Camerounais en question était missionnaire en Mongolie,
Oh, c'est loin de sa paroisse.
Là, ça commence à être loin de la paroisse, comme vous dites. Ah, ça m'a vraiment intrigué pour savoir comment est-ce qu'un Africain pouvait se retrouver en Mongolie.
Parce qu'à l'autre bout du monde.
Oui, et c'est là que j'ai appris qu'on lui avait donné le choix entre trois pays, dont la Mongolie. Et pour lui, s'il a fait ce choix, c'est que c'est celui qu'il trouvait effectivement le plus dépaysant. Mmh. Mais il voulait connaître un autre climat. Autre climat, s'il en est un, entre la Mongolie et le Cameroun, on s'entend que c'est vraiment très différent. Alors, voilà, j'ai voulu aussi entendre parler le père Saint-Arnaud au sujet des activités qui l'ont occupé pendant tout son séjour, toute sa carrière de missionnaire à partir du moment où il est allé d'abord, qu'il a quitté le Québec. On l'écoute.
J'ai commencé autour des années 1980-81, lorsque je suis allé dans la République démocratique du Congo, autrefois qu'on appelait le Zaïre, et ça a été justement ma première expérience de vie missionnaire. J'avais alors 26 ans. Alors aujourd'hui, j'en ai 57, donc ça fait bon, une petite différence. Et puis, j'ai vécu au Congo environ 10 ans avec un intervalle de quelques années pour terminer mes études en anthropologie en Angleterre. Mais j'aimerais vous signaler que ces années au Congo ont été pour moi les plus belles années de ma vie. Évidemment, c'était pas facile d'être isolé, vivre dans la brousse. Nous étions une communauté de trois confrères. Les conditions de vie étaient plutôt difficiles. Et je me rappelle très bien que dans les années 90, on a connu la désintégration des structures économiques et politiques de l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko, peut-être que vous vous rappelez de ce nom-là. Et nous avons aussi agi à l'époque comme un médiateur pacificateur au moment de la guerre tribale qu'on a connue entre la tribu des Wagiti, des Emma. Et puis je dois dire que c'était une situation dangereuse. Et malgré tout, avec l'aide de la population et avec acharnement, eh bien, j'ai facilité la construction d'une école d'enseignement secondaire. Ça nous a exigé 5 années de patient travail avec beaucoup d'efforts et peu de moyens. Et je suis très content d'apprendre encore aujourd'hui. Cette école fonctionne très bien. Mais, c'est ce que j'allais dire plus tôt, c'est malgré toutes les difficultés, je me sentais comme un poisson dans l'eau. J'étais parfaitement intégré dans le milieu. Je connaissais la langue, je connaissais plusieurs des coutumes dites secrètes de la société tribale. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'être accepté comme un membre de la tribu à un moment donné. Mais j'ai dû quitter le Congo. J'ai quitté le Congo en 96. Pour quelques années de travail d'animation missionnaire au Québec, dans la région de Québec, où je visitais des paroisses et des écoles. Et puis, en discutant avec mes confrères, on m'a offert l'opportunité d'aller au Malawi. Et je me suis retrouvé au Malawi à l'an 2000, à 2001, dans un autre pays africain, devoir apprendre une nouvelle langue africaine, le Tshitshewa, m'adapter à une mentalité complètement différente de celle que j'avais connue au Congo. Mais j'ai eu la chance de travailler dans un centre culturel, le centre culturel Kunguni, qui a comme principale attraction un remarquable musée qui est dédié aux trois principales tribus du centre du pays au Malawi. Et puis, maintenant, comme tu as mentionné, depuis un an, je suis à Lusaka, la capitale de la Zambie. Je suis le secrétaire de la province d'Afrique australe chez les missionnaires d'Afrique, qui englobe 4 pays, la Zambie, le Malawi, le Mozambique et l'Afrique du Sud. En tout, cela regroupe environ 120 missionnaires d'origine aussi diverse que les confrères venant des Philippines, de l'Inde, même du Mexique ou de d'autres pays africains. Et nous sommes en fait non seulement internationaux, mais nous sommes aussi interraciaux, si tu préfères, intercontinentaux.
Et vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail de secrétaire?
Ah, mon travail de secrétaire. Bon, imagine-toi, d'abord, je voudrais te dire une chose intéressante, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai complètement échoué mes examens d'anglais. Une catastrophe épouvantable à l'époque. Et imagine-toi que je me retrouve aujourd'hui secrétaire en Zambie, dans un pays entièrement anglophone, à rédiger des rapports, à communiquer à gauche et à droite, à essayer d'améliorer les communications entre nos confrères qui sont dans les quatre pays que j'ai mentionnés plus tôt. Bon, enfin, nos confrères, comme tu peux imaginer, qu'ils sont engagés en pastorale, animation pastorale en paroisse. Donc, il y a beaucoup d'informations, de communications à développer pour créer un sens d'unité dans notre région. Et puis, je pourrais peut-être ajouter une chose intéressante aussi, c'est que mon travail consiste aussi dans ce rôle de communicateur, de favoriser la campagne que nous avons entreprise au sein de notre société missionnaire. Nous soulignons cette année le 125e anniversaire de la campagne anti-esclavagiste de notre fondateur, le cardinal Lavigerie, qui a combattu ce fléau à l'époque, il y a déjà longtemps, là, il a combattu ce fléau jusqu'à sa mort en 1892. Alors, nous nous rappelons de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, dans tous les pays africains où nous sommes présents, nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour dénoncer les nouvelles formes d'esclavage qui sévissent en Afrique, telles que le trafic humain, par exemple.
Vous dites avoir eu des difficultés avec l'anglais. Pourtant, vous avez étudié, si je ne m'abuse, à Londres, en 87,
oui,
non?
Oui, c'est ça. Donc, imagine-toi, j'arrive en Afrique. Et puis, je me disais à moi-même, mais comment est-ce que je vais faire pour apprendre des langues africaines si je parlais même pas à apprendre l'anglais? Et puis, j'ai commencé à apprendre le Kiswahili du Congo à ce moment-là. bon, après 3 mois, je comprenais rien. Et puis, finalement, je me suis retrouvé dans une zone minière dans le nord du Congo. Et puis, j'ai commencé à apprendre à parler un peu le Kiswahili. Et puis, je me suis rendu compte, finalement, que le Kiswahili, c'est ma deuxième langue, parce que là, j'ai dû apprendre aussi l'anglais une fois en Angleterre. Mais ça a été drôle, parce que en Angleterre, j'étais avec des jeunes venant de partout et qui parlaient un anglais avec un accent différent. Alors, j'étais perdu complètement. Mais j'ai réussi, j'ai travaillé fort. Et je suis retourné en Afrique, j'ai continué mon travail missionnaire au Congo en utilisant la langue locale qui était le Kiswahili, avec aussi une autre langue plus locale qu'on appelle le Mruna. Et récemment au Malawi, j'ai appris le Tshitshewa et que j'utilise encore ici en Zambie.
Vous écoutez Vue d'ailleurs, une production de l'Aide à l'Église en détresse. Ici Denis Miron en compagnie de Robert Lalonde. Notre invité aujourd'hui est le Père Serge Saint-Arnaud. Il est secrétaire de la province d'Afrique australe des missionnaires d'Afrique, dont le bureau central est situé à Lusaka, la capitale de la Zambie. Robert, vous avez mentionné en début d'émission comment vous avez connu le Père Saint-Arnaud, notamment à la lecture d'un article qu'il a écrit dans le journal de l'Église de Trois-Rivières. C'était au printemps dernier. L'article s'intitulait justement « Le printemps chrétien ». Je ne sais pas s'il y a un lien entre le printemps chrétien et le printemps arabe de 2011.
Il va nous en parler, justement. Cet article m'a vraiment frappé. Ça a attiré beaucoup mon attention. Et dans l'article en question, qui est dans le journal de l'Église de Trois-Rivières en mars 2012, comme vous le disiez, il dit que tant pour les Arabes que pour les chrétiens qui se rallient à eux pour la cause sociale du mouvement arabe, il dit donc, et je cite, « Le défi est d'espérer et de croire en dépit de toute réalité contraire. » En cette année de la foi, je lui ai donc demandé comment il était possible de relever un tel défi.
En fait, l'article en question était une invitation à ouvrir les chemins du cœur. Alors, la réalité profonde de l'être humain, et ça, je l'ai découvert en Afrique comme ailleurs, nous sommes tous les mêmes. Nous devons faire face aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés, et malgré les différences culturelles ou historiques ou sociologiques, fondamentalement, nous sommes des êtres humains tout à fait semblables. Or, par choix ou par maladresse, nous entretenons les abîmes qui nous différencient. Alors, il peut s'agir de choix politiques, d'idéologie, de convictions religieuses, ou encore d'identité sexuelle ou d'appartenance linguistique, peu importe. Alors, mon argument est simplement de dire que l'avancement des moyens de communication n'est pas la solution au conflit qui nous oppose. Le gouffre qui empêche le vrai dialogue entre les nations et les individus ne peut être comblé que par une attitude évangélique authentique. Alors, c'est-à-dire en osant offrir notre vulnérabilité pour qu'ensemble, nous puissions combattre le mal. Alors, dans l'article que tu mentionnes, je dis aussi que nous portons tous cette mission de dégager la porte de nos peurs pour oser prendre la route de l'espérance. Finalement, j'ajoute que l'essentiel est dans la mise en route elle-même et non pas le but à atteindre. Alors, chose intéressante, quand j'ai écrit cet article, quelques mois plus tôt, j'en avais écrit un autre qui a été publié dans le journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières. Si je me rappelle bien, c'était au mois d'août. Et j'établissais à ce moment-là une comparaison entre la vitesse des bolides du Grand Prix de Trois-Rivières, là, la course automobile. Et je comparais cette course-là avec la vitesse des fauteuils roulants qui défilaient sur les parvis du sanctuaire du Cap de la Madeleine. C'était, avec Dieu, le même fin de semaine, ça avait lieu en même temps.
Dans un article que vous avez écrit aussi dans le journal de l'Église de Trois-Rivières en mars 2012, vous dites que tant pour les Arabes que pour les chrétiens qui seraient liés à eux pour leur cause sociale dans le mouvement arabe, et je cite ce que vous dites, « Le défi est d'espérer et de croire en dépit de toute réalité contraire. En cette année de la foi, comment croyez-vous qu'il soit possible de relever un tel défi? »
Dans l'article en question, je parle du printemps arabe en tant que revendication citoyenne.
Oui.
À laquelle participent à la fois les chrétiens et les musulmans.
Mm-hmm, tout à fait.
Ce sont tous des Arabes. Ça, on oublie cet aspect-là parfois. Et de plus, le printemps arabe ne se confine pas au monde arabe. Ce printemps nous appartient à nous tous, dans la mesure où il représente le combat que nous menons pour affronter les injustices. Alors, cet élan ou cette impulsion pour la justice est au cœur du message évangélique. Ça, je pense que c'est très clair. Et c'est ma conviction que l'œuvre de l'Esprit de Dieu est active plus que jamais, même si extérieurement, tout semble prouver le contraire. Envers et contre tout, ou si tu préfères, en dépit de toute réalité contraire, la libération ultime de toute forme de mal pointe à l'horizon avec celui, et je veux parler de Jésus, de celui qui nous montre le chemin du royaume de Dieu.
Mais vous terminez ce même article par un passage que je trouve percutant et ça nous laisse vraiment sur une note de réflexion profonde. Vous terminez l'article, je disais, par le passage suivant. « Malgré 2000 ans d'existence, le printemps chrétien, cette fois, ne fait que commencer et se poursuit encore une fois en dépit de toute réalité contraire. Que cherche surtout à poursuivre ce printemps chrétien? »
Je me suis parfois dit que le Seigneur avait choisi de s'incarner chez les Juifs, sachant qu'il faudrait beaucoup plus de temps à la race blanche de progresser vers la conversion au Dieu de Jésus-Christ que pour les autres races. Bon, c'est peut-être un peu drôle à dire, mais 2000 ans, quand on y pense, c'est pas si long. Et mon expérience des vies missionnaires en Afrique m'enseigne aussi autre chose. C'est que bien souvent, la conversion dont on parle, elle est souvent à la surface de l'épiderme. Alors, atteindre le cœur profond du message évangélique, c'est une autre histoire. Et il faut toute une vie humaine pour simplement s'en approcher. Bon, moi, ça fait maintenant 26 ans que je suis prêtre et puis j'ai l'impression d'être encore en route vers un chemin de conversion. Ma conversion réelle, ma conversion personnelle est encore à faire. J'ai encore beaucoup d'aspects dans ma vie à évangéliser. Alors, quand on parle d'un peuple ou d'une race ou d'une histoire, et c'est beaucoup plus complexe encore. Alors, lorsqu'il s'agit d'évangéliser, c'est-à-dire d'incarner ou de rendre vivante la parole de Dieu dans un respect sincère des coutumes africaines ancestrales, d'ailleurs qui remontent à la nuit des temps, vous imaginez la complexité de la situation. Et n'est-il pas vrai, d'ailleurs, que l'Esprit de Dieu planait au-dessus du continent africain bien avant l'arrivée des premiers missionnaires? Donc, c'est à nous d'aller chercher dans l'étude des langues, dans l'étude des coutumes africaines, la présence de Dieu déjà active bien au-delà de l'arrivée des premiers missionnaires en terre africaine. Dieu aime son peuple là où il est, il l'a aimé depuis toujours. Et puis cela m'amène à dire que les populations africaines où l'Évangile a été semé me semblent parfois beaucoup plus chrétiennes dans leur manière d'être et de vivre que dans bien des pays occidentaux où l'Évangile a été prêché pendant 2000 ans, mais où il devient aujourd'hui scandaleux d'afficher la croix de Jésus. Alors, c'est pourquoi je dis que 2000 ans, c'est bien peu de temps pour une évangélisation en profondeur. Oui, le printemps chrétien ne fait que commencer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Christ est ressuscité et que le monde n'est plus et ne sera plus jamais le même grâce à Jésus de Nazareth. Voilà mon espérance en dépit de toute réalité contraire.
Robert, parlons de l'émission de la semaine prochaine. De quoi sera-t-il question?
Bon, écoutez, ça a été un privilège pour moi de faire cette rencontre avec une des rares personnalités encore vivante, ayant participé, non seulement connu, mais ayant participé à Concile Vatican II. Et quant à moi, un homme d'exception. Vous verrez la semaine prochaine, il s'agit de M. Grégory Baume.
On en dira davantage, effectivement, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Robert. Notre invité aujourd'hui était le Père Serge Saint-Arnaud. Il est secrétaire de la province d'Afrique australe des missionnaires d'Afrique, dont le bureau central est situé à Lusaka, capitale de la Zambie. Voilà qui complète notre émission pour aujourd'hui. Nous espérons que le sujet a su vous intéresser. La semaine prochaine, nous recevrons Grégory Baume, théologien, philosophe et professeur canadien. Il est surtout l'une des rares personnalités encore vivantes à avoir participé au Concile Vatican II. À la production technique, c'était Antonin Viss. Ici Denis Miron, en compagnie de Robert Lalonde, qui vous souhaite une excellente semaine à l'antenne de Radio Ville-Marie. Nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre émission de Vue d'ailleurs.